La plaidoirie de Maître Sénard au procès de Madame Bovary. Messieurs, Monsieur Gustave Flaubert est accusé devant vous d'avoir fait un mauvais livre, d'avoir dans ce livre outragé la morale publique et la religion. Monsieur Gustave Flaubert est auprès de moi. Il affirme devant vous qu'il a fait un livre honnête. Il affirme devant vous que la pensée de son livre, depuis la première ligne jusqu'à la dernière, est une pensée morale, religieuse, et que, si elle n'était pas dénaturée, nous avons vu pendant quelques instants ce que peut un grand talent pour dénaturer une pensée, elle serait, et elle reviendra tout à l'heure, pour vous ce qu'elle a été déjà pour les lecteurs du livre, une pensée éminemment morale et religieuse, pouvant se traduire par ces mots, l'excitation à la vertu par l'horreur du vice. Je vous apporte ici l'affirmation de M. Gustave Flaubert, et je la mets hardiment en regard du réquisitoire du ministère public, car cette affirmation est grave. Elle l'est par la personne qui l'a faite, elle l'est par les circonstances qui ont présidé à l'exécution du livre que je vais vous faire connaître. L'affirmation est déjà grave par la personne qui l'a fait, et permettez-moi de vous le dire, M. Gustave Flaubert n'était pas pour moi un inconnu, qui eut besoin auprès de moi de recommandations, qui eut des renseignements à me donner. Je ne dis pas sur sa moralité, mais sur sa dignité. Je viens ici, dans cette enceinte, remplir un devoir de conscience après avoir lu le livre, après avoir senti s'exhaler par cette lecture tout ce qu'il y a en moi d'honnête et de profondément religieux. Mais, en même temps que je viens remplir un devoir de conscience, je viens remplir un devoir d'amitié. Je me rappelle, je ne saurais oublier, que son père a été pour moi un vieil ami. Son père, de l'amitié duquel je me suis longtemps honoré jusqu'au dernier jour, son père est, permettez-moi de le dire, son illustre père, a été pendant plus de 30 années chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Il a été le prosecteur de Dupuytren. En donnant à la science de grands enseignements, il l'a doté de grands noms. Je n'en veux citer qu'un seul, Cloquet. Il n'a pas seulement laissé lui-même un beau nom dans la science, il y a laissé de grands souvenirs pour d'immenses services rendus à l'humanité. Et en même temps que je me souviens de mes liaisons avec lui, je veux vous le dire, son fils, qui est traduit en police correctionnelle pour outrage à la morale et à la religion, son fils est l'ami de mes enfants, comme j'étais l'ami de son père. Je sais sa pensée, je sais ses intentions, et l'avocat a ici le droit de se poser comme la caution personnelle de son client. Messieurs, un grand nom et de grands souvenirs obligent. Les enfants de M. Flaubert ne lui ont pas failli. Ils étaient 3, 2 fils et une fille morte à 20 ans. L'aîné a été jugé digne de succéder à son père, et c'est lui qui aujourd'hui remplit déjà depuis plusieurs années la mission que son père a remplie pendant 30 ans. Le plus jeune, le voici, il est à votre barre. En leur laissant une fortune considérable et un grand nom, leur père leur a laissé le besoin d'être des hommes d'intelligence et de cœur, des hommes utiles. Le frère de mon client s'est lancé dans une carrière où les services rendus sont de chaque jour. Celui-ci a dévoué sa vie à l'étude, aux lettres, et l'ouvrage qu'on poursuit en ce moment devant vous est son premier ouvrage. Ce premier ouvrage, messieurs, qui provoque les passions, au dire de M. l'avocat impérial, est le résultat de longues études, de longues méditations. M. Gustave Flaubert est un homme d'un caractère sérieux, porté par sa nature aux choses graves, aux choses tristes. Ce n'est pas l'homme que le ministère public, avec 15 ou 20 lignes mordues çà et là, est venu vous présenter comme un faiseur de tableaux lascifs. Non, il y a dans sa nature, je le répète, tout ce qu'on peut imaginer au monde de plus grave, de plus sérieux, mais en même temps de plus triste. Son livre, en rétablissant seulement une phrase, en mettant à côté des quelques lignes citées, les quelques lignes qui précèdent et qui suivent, reprendra bientôt devant vous sa véritable couleur, en même temps qu'il fera connaître les intentions de l'auteur. Et de la parole trop habile que vous avez entendue, il ne restera dans vos souvenirs qu'un sentiment d'admiration profonde pour un talent qui peut tout transformer. Je vous ai dit que M. Gustave Flaubert était un homme sérieux et grave. Ses études, conformes à la nature de son esprit, ont été sérieuses et larges. Elles ont embrassé non seulement toutes les branches de la littérature, mais le droit. M. Flaubert est un homme qui ne s'est pas contenté des observations que pouvait lui fournir le milieu où il a vécu. Il a interrogé d'autres milieux. Qui mores multorum vidit et urbes. Après la mort de son père et ses études de collège, il a visité l'Italie et, de 1848 à 1851, parcouru ses contrées de l'Orient, l'Égypte, la Palestine, l'Asie mineure, dans lesquelles, sans doute, l'homme qui les parcourt, en y apportant une grande intelligence, peut acquérir quelque chose d'élevé, de poétique. Ces couleurs, ce prestige de style que le ministère public faisait tout à l'heure ressortir pour établir le délit qu'il nous impute. Ce prestige de style, ces qualités littéraires resteront, ressortiront avec l'éclat de ces débats, mais ne pourront en aucune façon laisser prise à l'incrimination. De retour depuis 1852, M. Gustave Flaubert a écrit et cherché à produire dans un grand cadre le résultat d'études attentives et sérieuses, le résultat de ce qu'il avait recueilli dans ses voyages. Quel est le cadre qu'il a choisi, le sujet qu'il a pris, et comment l'a-t-il traité? Mon client est de ceux qui appartiennent à aucune des écoles dont j'ai trouvé tout à l'heure le nom dans le réquisitoire. Oh, mon Dieu! Il appartient à l'école réaliste, en ce sens qu'il s'attache à la réalité des choses. Il appartient à l'école psychologique, en ce sens que ce n'est pas la matérialité des choses qui le pousse, mais le sentiment humain, le développement des passions, dans le milieu où il est placé. Il appartient à l'école romantique, moins peut-être qu'à tout autre, car si le romantisme apparaît dans son livre, de même que si le réalisme y apparaît, ce n'est pas par quelques expressions ironiques jetées ça et là que le ministère public a pris au sérieux. Ce que M. Flaubert a voulu surtout, ça a été de prendre un sujet d'étude dans la vie réelle, ça a été de créer, de constituer des types vrais dans la classe moyenne et d'arriver à un résultat utile. Oui, ce qui l'a le plus préoccupé, mon client, dans l'étude à laquelle il s'est livré, c'est précisément ce but utile, poursuivi en mettant en scène trois ou quatre personnages de la société actuelle vivant dans les conditions de la vie réelle et présentant aux yeux du lecteur le tableau vrai de ce qui se rencontre le plus souvent dans le monde. Le ministère public, résumant son opinion sur Madame Bovary, a dit « Le second titre de cet ouvrage est « Histoire des adultères d'une femme de province ». Je proteste énergiquement contre ce titre. Il me prouverait à lui seul, si je ne l'avais pas senti d'un bout à l'autre de votre réquisitoire, la préoccupation sous l'empire de laquelle vous avez constamment été. Non ! Le second titre de cet ouvrage n'est pas « Histoire des adultères d'une femme de province ». Il est, s'il vous faut absolument un second titre, histoire de l'éducation trop souvent donnée en province, histoire des périls auxquels elle peut conduire, histoire de la dégradation, de la friponnerie, du suicide considéré comme conséquence d'une première faute et d'une faute amenée elle-même par le premier tort auquel souvent une jeune femme est entraînée. Histoire de l'éducation, histoire d'une vie déplorable dont trop souvent l'éducation est la préface. Voilà ce que M. Flaubert a voulu peindre, et non pas les adultères d'une femme de province. Vous le reconnaîtrez bientôt en parcourant l'ouvrage incriminé. Maintenant, le ministère public a aperçu dans tout cela, par-dessus tout, la couleur lascive. S'il m'était possible de prendre le nombre de lignes du livre que le ministère public a découpé et de le mettre en parallèle avec le nombre des autres lignes qu'il a laissées de côté, nous serions dans la proportion totale de 1 à 500. Et vous verriez que cette proportion de 1 à 500 n'est pas une couleur lascive, n'est nulle part. Elle n'existe que sous la condition des découpures et des commentaires. Maintenant, qu'est-ce que M. Gustave Flaubert a voulu peindre ? D'abord, une éducation donnée à une femme au-dessus de sa condition dans laquelle elle est née. Comme il arrive, il faut bien le dire, trop souvent chez nous. Ensuite, le mélange d'éléments disparates qui se produit ainsi dans l'intelligence de la femme. Et puis, quand vient le mariage, comme le mariage ne se proportionne pas à l'éducation, mais aux conditions dans lesquelles la femme est née, l'auteur a expliqué tous les faits qui se passent dans la position qui lui est faite. Que montre-t-il encore ? Il montre une femme allant au vice par la mésalliance et du vice au dernier degré de la dégradation et du malheur. Tout à l'heure, quand, par la lecture de différents passages, j'aurais fait connaître le livre dans son ensemble, je demanderai au tribunal la liberté d'accepter la question en ces termes. Ce livre, mis dans les mains d'une jeune femme, pourrait-il avoir pour effet de l'entraîner vers des plaisirs faciles, vers l'adultère, ou de lui montrer au contraire le danger dès les premiers pas et de la faire frissonner d'horreur? La question ainsi posée, c'est votre conscience qui la résoudra. Je dis ceci quant à présent. M. Flaubert a voulu peindre la femme qui, au lieu de chercher à s'arranger dans la condition qui lui est donnée, avec sa situation, avec sa naissance, au lieu de chercher à se faire à la vie qui lui appartient, reste préoccupée de 1000 aspirations étrangères puisées dans une éducation trop élevée pour elle, qui, au lieu de s'accommoder des devoirs de sa position, d'être la femme tranquille du médecin de campagne avec lequel elle passe ses jours, au lieu de chercher le bonheur dans sa maison, dans son union, le cherche dans d'interminables rêvasseries, et puis qui, bientôt, rencontrant sur sa route un jeune homme qui coquette avec elle, joue avec elle le même jeu. Mon Dieu, ils sont inexpérimentés l'un et l'autre. S'excitent en quelque sorte par degrés, s'effraient quand, recourant à la religion de ses premières années, elle n'y trouve pas une force suffisante. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi elle ne l'y trouve pas. Cependant, l'ignorance du jeune homme et sa propre ignorance la préservent d'un premier danger. Mais elle est bientôt rencontrée par un homme, comme il y en a tant, comme il y en a trop dans le monde, qui se saisit d'elle, pauvre femme déjà déviée, et l'entraîne. Voilà ce qui est capital, ce qu'il va aller voir, ce qu'est le livre lui-même. Le ministère public s'irrite, et je crois qu'il s'irrite à tort, au point de vue de la conscience et du cœur humain, de ce que, dans la première scène, Madame Bovary trouve une sorte de plaisir, de joie, à avoir brisé sa prison, et rentre chez elle en disant « J'ai un amant ». Vous croyez que ce n'est pas là le premier cri du cœur humain? Mais la preuve est entre vous et moi. Mais il fallait regarder un peu plus loin, et vous auriez vu que, si le premier moment, le premier instant de cette chute excite chez cette femme une sorte de transport de joie, de délire, à quelques lignes plus loin, la déception arrive et, suivant l'expression de l'auteur, elle semble, à ses propres yeux, humiliée. Oui, la déception, la douleur, le remords lui arrivent à l'instant même. L'homme auquel elle s'était confiée, livrée, ne l'avait prise que pour s'en servir un instant, comme d'un jouet. Le remords la ronge, la déchire. Ce qui vous a choqué, ça a été d'entendre appeler cela les désillusions de l'adultère. Vous auriez mieux aimé les souillures chez un écrivain qui faisait poser cette femme, laquelle, n'ayant pas compris le mariage, se sentait souillée par le contact d'un mari, laquelle, ayant cherché ailleurs son idéal, avait trouvé les désillusions de l'adultère. Ce mot vous a choqué. Au lieu des désillusions, vous auriez voulu les souillures de l'adultère. Le tribunal jugera. Quant à moi, si j'avais à faire poser le même personnage, je lui dirais « Pauvre femme, si vous croyez que les baisers de votre mari sont quelque chose de monotone, d'ennuyeux, si vous les trouvez, c'est le mot qui a été signalé, que les platitudes du mariage, s'il vous semble voir une souillure dans cette union à laquelle l'amour n'a pas présidé, prenez-y garde. Vos rêves sont une illusion, et vous serez un jour cruellement détrompé. Celui qui crie bien fort, messieurs, qui se sert du mot « souillure » pour exprimer ce que nous avons appelé « désillusion », celui-là dit un mot vrai mais vague, qui n'apprend rien à l'intelligence. J'aime mieux celui qui ne crie pas fort, qui ne prononce pas le mot de souillure, mais qui avertit la femme de la déception, de la désillusion, qui lui dit « Là où vous croyez trouver l'amour, vous ne trouverez que le libertinage. Là où vous croyez trouver le bonheur, vous ne trouverez que des amertumes. » Un mari qui va tranquillement à ses affaires, qui vous embrasse, qui met son bonnet de coton et mange la soupe avec vous, est un mari prosaïque qui vous révolte. Vous aspirez à un homme qui vous aime, qui vous idolâtre, pauvre enfant. Cet homme sera un libertin qui vous aura pris une minute pour jouir avec vous. L'illusion se sera produite la première fois, peut-être la seconde. Vous serez rentré chez vous enjoué, en chantant la chanson de l'adultère. J'ai un amant. La troisième fois, vous n'aurez pas besoin d'arriver jusqu'à lui. La désillusion sera venue. Cet homme que vous aviez rêvé aura perdu tout son prestige. Vous aurez retrouvé dans l'amour les platitudes du mariage et vous les aurez retrouvées avec le mépris, le dédain, le dégoût et le remords poignant. Voilà, messieurs, ce que M. Flaubert a dit, ce qu'il a peint, ce qui est à chaque ligne de son livre. Voilà ce qui distingue son œuvre de toutes les œuvres du même genre. C'est que chez lui, les grands travers de la société figurent à chaque page. C'est que chez lui, l'adultère marche plein de dégoût et de honte. Il a pris dans les relations habituelles de la vie l'enseignement le plus saisissant qui puisse être donné à une jeune femme. Oh, mon Dieu, celle de nos jeunes femmes qui ne trouvent pas dans les principes honnêtes, élevés, dans une religion sévère, de quoi se tenir ferme dans l'accomplissement de leur devoir de mère, qui ne la trouvent pas surtout dans cette résignation, cette science pratique de la vie qui nous dit qu'il faut s'accommoder de ce que nous avons, mais qui porte leur rêverie au dehors. Ces jeunes femmes les plus honnêtes, les plus pures, qui dans le prosaïsme de leur ménage sont quelquefois tourmentées par ce qui se passe autour d'elles. Un livre comme celui-là, soyez-en sûr, en fait réfléchir plus d'une. Voilà ce que M. Flaubert a fait. Et prenez bien garde à une chose. M. Flaubert n'est pas un homme qui vous peint un charmant adultère pour faire arriver ensuite le Deus ex machina. Non! Vous avez sauté trop vite de la page que vous avez lue à la dernière. L'adultère, chez lui, n'est qu'une suite de tourments, de regrets, de remords. Et puis, il arrive à une expiation finale, épouvantable. Elle est excessive. Si M. Flaubert pêche, c'est par l'excès, et je vous dirai tout à l'heure de qui est ce mot. L'expiation ne se fait pas attendre, et c'est en cela que le livre est éminemment moral et utile. C'est qu'il ne prône pas à la jeune femme quelques-unes de ces belles années au bout desquelles elle peut dire « Après cela, on peut mourir ». Non ! Dès le second jour, arrive l'amertume, la désillusion. Le dénouement pour la moralité se trouve à chaque ligne du livre. Ce livre est écrit avec une puissance d'observation à laquelle M. l'avocat impérial a rendu justice Et c'est ici que j'appelle votre attention, parce que si l'accusation n'a pas de cause, il faut qu'elle tombe. Ce livre est écrit avec une puissance vraiment remarquable d'observation dans les moindres détails. Un article de l'Artiste, signé Flaubert, a servi encore de prétexte à l'accusation. Que monsieur l'avocat impérial veuille remarquer d'abord que cet article est étranger à l'incrimination, qu'il veuille remarquer ensuite que nous le tenons pour très innocent et très moral aux yeux du tribunal, à une condition que monsieur l'avocat impérial aura la bonté de le lire en entier au lieu de le déchiqueter. Ce qui a saisi dans le livre de monsieur Flaubert, c'est ce que quelques comptes rendus ont appelé une fidélité toute daguerrienne dans la reproduction du type de toutes les choses dans la nature intime de la pensée et du cœur humain. Et cette reproduction devient plus saisissante encore par la magie du style. Remarquez bien que s'il n'avait appliqué cette fidélité qu'aux scènes de dégradation, vous pourriez dire avec raison, l'auteur s'est complu à peindre la dégradation avec cette puissance de description qui lui est propre. De la première à la dernière page de son livre, il s'attache sans aucune espèce de réserve à tous les faits de la vie d'Emma, à son enfance dans la maison paternelle, à son éducation dans le couvent. Il ne fait grâce de rien, mais ceux qui ont lu comme moi, du commencement à la fin, diront, chose notable dont vous lui saurez gré, que non seulement sera l'absolution pour lui, mais qui aurait dû écarter de lui toute espèce de poursuite que, quand il arrive aux parties difficiles, précisément à la dégradation, au lieu de faire comme quelques auteurs classiques que le ministère public connaît bien, mais qu'il a oublié pendant qu'il écrivait son réquisitoire et dont j'ai apporté ici des passages, non pas pour vous les lire, mais pour que vous les parcouriez dans la chambre du conseil, j'en citerai quelques lignes tout à l'heure, au lieu de faire comme nos grands auteurs classiques, nos grands maîtres, qui, lorsqu'ils ont rencontré des scènes de l'union des sens chez l'homme et la femme, n'ont pas manqué de tout décrire, M. Flaubert se contente d'un mot. Là, toute sa puissance descriptive disparaît, parce que sa pensée est chaste, parce que là où il pourrait écrire à sa manière, et avec toute la magie du style, il sent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être abordées, décrites. Le ministère public trouve qu'il a trop dit encore. Quand je lui montrerai des hommes qui, dans de grandes œuvres philosophiques, se sont complus à la description de ces choses, et qu'en regard je placerai l'homme qui possède la science descriptive à un si haut degré, et qui, loin de l'employer, s'arrête et s'abstient, j'aurai bien le droit de demander raison à l'accusation qui est produite. Toutefois, messieurs, de même qu'il se plaît à nous décrire le riant berceau où se joue Emma encore enfant, avec son feuillage, avec ses petites fleurs roses ou blanches qui viennent de s'épanouir et ses sentiers embaumés, de même quand elle sera sortie de là, quand elle ira dans d'autres chemins, dans des chemins où elle trouvera de la fange, quand elle y saillira ses pieds, quand les taches mêmes rejailliront plus haut sur elle, il ne faudrait pas qu'il le dit, mais ce serait supprimer complètement le livre. Je vais plus loin. L'élément moral, sous prétexte de le défendre, car si la faute ne peut pas être montrée, si elle ne peut pas être indiquée, si dans un tableau de la vie réelle, qui a pour but de montrer par la pensée le péril, la chute, l'expiation, si vous voulez empêcher de peindre tout cela, c'est évidemment ôter au livre sa conclusion. Ce livre n'a pas été pour mon client l'objet d'une distraction de quelques heures. Il représente 2 ou 3 années d'études incessantes. Et je vais vous dire maintenant quelque chose de plus. Monsieur Flaubert, qui, après tant d'années de travaux, tant d'études, tant de voyages, tant de notes recueillies dans les auteurs qu'il a lus, vous verrez, mon Dieu, où il a puisé, car c'est quelque chose d'étrange qui se chargera de le justifier, Vous le verrez, lui, aux couleurs lascives, tout imprégné de Bossuet et de Massillon. C'est dans l'étude de ces auteurs que nous allons le retrouver tout à l'heure, cherchant non pas à les plagier, mais à reproduire dans ses descriptions les pensées, les couleurs employées par eux. Quand, après tout ce travail fait avec tant d'amour, quand son œuvre a son but, est-ce que vous croyez que, plein de confiance en lui-même et malgré tant d'études et de méditations, il a voulu immédiatement se lancer dans la lice? Il l'aurait fait sans doute, s'il eût été un inconnu dans le monde, si son nom lui eût appartenu en toute propriété, s'il eût cru pouvoir en disposer et le livrer comme bon lui semblait. Mais, je le répète, il est de ceux chez lesquels noblesse oblige. Il s'appelle Flaubert. Il est le second fils de Monsieur Flaubert. Il voulait se tracer une voie dans la littérature en respectant profondément la morale et la religion, non pas par inquiétude du parquet, un tel intérêt ne saurait se présenter à sa pensée, mais par dignité personnelle, ne voulant pas laisser son nom à la tête d'une publication si elle ne semblait pas à quelques personnes en lesquelles il avait foi digne d'être publiée. Monsieur Flaubert a lu, par fragments et en totalité même, devant quelques amis haut placés dans les lettres, les pages qu'un jour il devait livrer à l'impression. Et j'affirme qu'aucun d'eux n'a été offensé de ce qui excite en ce moment si vivement la sévérité de monsieur l'avocat impérial. Personne même n'y a songé. On a seulement examiné, étudié la valeur littéraire du livre. Quant au but moral, il est si évident, il est écrit à chaque ligne en termes si peu équivoques qu'il n'était même pas besoin de le mettre en question. Rassuré sur la valeur du livre, encouragé d'ailleurs par les hommes les plus éminents de la presse, M. Flaubert ne songe plus qu'à le livrer à l'impression, à la publicité. Je le répète, tout le monde a été unanime pour rendre hommage au mérite littéraire, au style et en même temps à la pensée excellente qui préside à l'œuvre depuis la première jusqu'à la dernière ligne. Et quand la poursuite est venue, ce n'est pas lui seulement qui a été surpris, profondément affligé, mais permettez-moi de vous le dire, c'est nous qui ne comprenions pas cette poursuite. C'est moi, tout le premier, qui avait lu le livre avec un intérêt très vif à mesure que la publication en a été faite. Ce sont des amis intimes. Mon Dieu! Il y a des nuances qui, quelquefois, pourraient nous échapper dans nos habitudes, mais qui ne peuvent pas échapper à des femmes d'une grande intelligence, d'une grande pureté, d'une grande chasteté. Il n'y a pas de nom qui puisse se prononcer dans cette audience. Mais si je vous disais ce qui a été dit à M. Flaubert, ce qui m'a été dit à moi-même par des mères de famille qui avaient lu ce livre, si je vous disais leur étonnement, après avoir reçu de cette lecture une impression si bonne qu'elles ont cru devoir en remercier l'auteur, si je vous disais leur étonnement, leur douleur, quand elles ont appris que ce livre devrait être considéré comme contraire à la morale publique, à leur foi religieuse, à la foi de toute leur vie, mon Dieu, mais il y aurait, dans la réunion de ces appréciations même, de quoi me fortifier, si j'avais besoin d'être fortifié au moment de combattre les attaques du ministère public. Pourtant, au milieu de toutes ces appréciations de la littérature contemporaine, il y en a une que je veux vous dire. Il y en a une qui n'est pas seulement respectée par nous à raison d'un beau et d'un grand caractère, qui, au milieu même de l'adversité et de la souffrance contre lesquelles il lutte courageusement chaque jour, grand par le souvenir de beaucoup d'actions inutiles à rappeler ici, mais grand par des œuvres littéraires qu'il faut rappeler parce que c'est là ce qui fait sa compétence, grand surtout par la pureté qui existe dans toutes ses œuvres, par la chasteté de tous ses écrits, Lamartine. Lamartine ne connaissait pas mon client. Il ne savait pas qu'il exista. Lamartine à la campagne, chez lui, avait lu dans chacun des numéros de la revue de Paris la publication de Madame Bovary, et Lamartine avait trouvé là des impressions telles qu'elles se sont reproduites toutes les fois que je vais vous dire maintenant. Il y a quelques jours, Lamartine est revenu à Paris, et le lendemain, il s'est informé de la demeure de M. Gustave Flaubert. Il a envoyé à la revue savoir la demeure d'un M. Gustave Flaubert qui avait publié dans le recueil des articles sous le titre de Madame Bovary. Il a chargé son secrétaire d'aller faire à M. Flaubert tous ses compliments, de lui exprimer toute la satisfaction qu'il avait éprouvée en lisant son œuvre et lui témoigner le désir de voir l'auteur nouveau se révélant par un essai pareil. Mon client est allé chez Lamartine, et il a trouvé chez lui non pas seulement un homme qui l'a encouragé, mais un homme qui lui a dit « Vous m'avez donné la meilleure œuvre que j'ai lue depuis 20 ans ». C'était en un mot des éloges tels que mon client, dans sa modestie, osait à peine me les répéter. Lamartine lui prouvait qu'il avait lu les livraisons, et le lui prouvait de la manière la plus gracieuse, en lui en disant des pages tout entières. Seulement, Lamartine ajoutait, en même temps que je vous ai lu, sans restriction, jusqu'à la dernière page, j'ai blâmé les dernières, vous m'avez fait mal, vous m'avez fait littéralement souffrir. L'expiation est hors de proportion avec le crime. Vous avez créé une mort affreuse, effroyable. Assurément, la femme qui souille le lit conjugal doit s'attendre à une expiation, mais celle-ci est horrible. C'est un supplice comme on n'en a jamais vu. Vous avez été trop loin, vous m'avez fait mal au nerf. Cette puissance de description qui s'est appliquée aux derniers instants de la mort m'a laissé une indicible souffrance. Et quand Gustave Flaubert lui demandait « Mais, monsieur de Lamartine, est-ce que vous comprenez que je sois poursuivi pour avoir fait une œuvre pareille devant le tribunal de police correctionnelle pour offense à la morale publique et religieuse ?» Lamartine lui répondait « Je crois avoir été toute ma vie l'homme qui, dans ses œuvres littéraires comme dans ses autres, a le mieux compris ce que c'était que la morale publique et religieuse. Mon cher enfant, il n'est pas possible qu'il se trouve en France un tribunal pour vous condamner. Il est déjà très regrettable qu'on se soit ainsi mépris sur le caractère de votre œuvre et qu'on ait ordonné de la poursuivre. Mais il n'est pas possible pour l'honneur de notre pays et de notre époque qu'il se trouve un tribunal pour vous condamner. » Voilà ce qui se passait hier entre Lamartine et Flaubert, et j'ai le droit de vous dire que cette appréciation est de celles qui valent la peine d'être pesées.